France Inter.
Le 13-14, Kevin Dufraîche.
Merci Nicolas, bon week-end et bonjour à tous. Michelin rend l'argent. Le fabricant de pneus vient de faire un don à l'État de plus de 4 millions d'euros. Il restitue en fait de l'argent public qui lui avait été versé via un crédit d'impôt, une initiative volontaire et assez inédite. Michelin critiqué récemment dans un rapport sénatorial sur les aides publiques. L'actualité, c'est aussi le froid qui persiste. En Normandie, plan grand froid activé, 2 gymnases réquisitionnés pour accueillir des sans-abri. Abdou vient y passer la nuit.
J'étais hébergé chez quelqu'un, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup pour la Croix-Rouge. C'est un bon accueil, vraiment. C'est quelque chose qu'on a besoin en ce moment. On ne peut pas rester même pas 30 minutes d'heure, quoi. Ça fait très très froid.
Un reportage à suivre. Après les frappes américaines au Nigeria autorisées par le président nigérian, on vous expliquera comment et pourquoi ce pays est gangréné par les groupes djihadistes. Avant le Nigeria, il y a eu l'Ukraine et le Proche-Orient, sans parler de ses multiples décisions de politique intérieure, ses outrances aussi. Donald Trump, omniprésent en 2025, c'est la personnalité la plus citée dans les médias en France. Devant Emmanuel Macron, résultat du baromètre de la plateforme Tagadé, une innovation étonnante, des drones pour repérer les virus chez les baleines. Bonjour Rémi Brocato.
Bonjour.
Expérimentation menée en Norvège.
Jusqu'ici, les scientifiques devaient approcher les baleines en bateau pour faire des prélèvements de peau, de graisse. Forcément, c'est acrobatique. Une chercheuse de l'Université du Nord en Norvège a eu l'idée de lancer des drones pour prélever le souffle qu'elles rejettent à la surface, une première.
Sans déranger les baleines à tout à l'heure, Rémi. On se demandera aussi si les Spurs de Wembanyama peuvent rêver du titre en NBA. C'est du basket. À 13h30, une rencontre avec une adolescente qui veut aller vite, très vite. Jade Vatremez a 12 ans, amputée des deux jambes. À 4 ans, elle rêve de participer aux Jeux Paralympiques. L'équipe vient de lui consacrer un documentaire. Vous avez des questions, vous faites vous-même du handisport, appelez-nous 01 45 24 7000. À 13h45, retour à Évreux, dernier épisode de notre feuilleton sur les traces d'Ousmane Dembélé. Dans C'est la France, Virginie Troussier nous emmène au sommet des Drues dans le massif du Mont-Blanc. Et pour clore en beauté notre semaine Aznavour dans C'est une chanson, l'acteur Gilles Alma raconte la bohème à Frédéric Pommier. Voilà le 13-14 de France Inter, c'est parti, soyez les bienvenus.
France Inter.
Voilà donc un virement, 4 300 000 euros. Émetteur, groupe Michelin, destinataire, l'État français, le fabricant français de pneus vient de reverser volontairement cette somme, touchée ces dernières années sous forme de crédit d'impôt, pour une usine que Michelin a en fait fermée par la suite. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
Ce n'est pas courant hein, ce genre d'initiative. Michelin le fait volontairement.
Oui, et ce n'est tellement pas courant qu'il n'existe pas de tuyau légal aujourd'hui pour rembourser une aide publique touchée par une entreprise, nous explique Bercy. Michelin a donc dû faire à proprement parler un don à l'État, dont en date du 11 décembre dernier, une somme qui avait été touchée pour mémoire en CICE, crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi. Elle devait être fléchée vers le site de La Roche-sur-Yon pour rénover les ateliers avec l'acquisition de 8 machines industrielles, mais ces machines ont en fait pris la route de l'Espagne et de l'Europe de l'Est. L'usine vendéenne, elle, a fermé ses portes en décembre 2020. Le sénateur communiste Fabien Gay est l'un des co-auteurs du rapport parlementaire sur les aides publiques aux entreprises. 211 milliards d'euros au total, rapport qui a mis au jour en juillet dernier le cas Michelin.
On vient de prouver qu'après une commission d'enquête et après une bataille politique et sociale, il y a une victoire. Et c'est pas une petite victoire. On oblige un groupe du CAC 40 sans pouvoir judiciaire, de manière éthique, à rembourser. C'est quand même un événement. Et donc maintenant, il faut prendre appui sur cet événement pour changer les règles. Ça ouvre tout un tas de potentialités.
Les parlementaires ont notamment adopté ces dernières semaines un nouveau principe de conditionnalité des aides publiques, mais la mesure est en suspens faute de budget voté. Alors l'exécutif, vous le disiez, précise qu'il s'agit bien d'un acte volontaire hein, accueilli positivement par le gouvernement. La direction de Michelin avait dit, hein, ce n'est pas une énorme surprise, avait dit après cette commission d'enquête que l'entreprise rembourserait. Elle l'avait encore répété après la diffusion du reportage complément d'enquête sur le sujet, mais on ne connaissait pas le montant. C'est donc la totalité de cette somme identifiée par les sénateurs qui est remboursée, 4,3 millions d'euros.
Explication signée Claire Chaudière. À Reims, une autopsie doit être réalisée aujourd'hui après la mort d'un homme dans la rue, mercredi soir. Il faisait alors moins 1 degré dans la ville. Une enquête est ouverte en recherche des causes de la mort. Alors pour qu'un maximum de personnes appelant le 115 puissent être accueillies, le plan grand froid est activé dans une vingtaine de départements. Le but, c'est d'ouvrir des places d'hébergement d'urgence supplémentaires. À Caen, par exemple, la préfecture a réquisitionné 2 gymnases gérés par la Croix-Rouge. Reportage Sarah Saltiel-Rago.
Les personnes arrivent à partir de 17h, on peut leur offrir un petit goûter, une boisson chaude.
Mélanie Ruel de la Croix-Rouge Calvados est mobilisée avec une quinzaine de bénévoles depuis le réveillon sur ce gymnase.
On a des repas fournis, des repas faits maison.
Et à côté, c'est tout un dortoir en fait qui a été installé.
Oui, tout à fait. Donc on a ce capacitaire à la Croix-Rouge d'avoir des remorques armées avec des lipicos, des duvets, des tonnelles. Donc il y a 50 personnes qui peuvent venir et qui peuvent être hébergées.
Dès l'ouverture, les premières personnes arrivent. Abdou, 37 ans, vient se mettre au chaud.
J'étais hébergé chez quelqu'un, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Et merci beaucoup pour la Croix-Rouge. C'est un bon accueil, vraiment. C'est quelque chose qu'on a besoin en ce moment. On ne peut pas rester même pas 30 minutes d'heure, quoi. Ça fait très, très froid.
Il reste juste 2 nuits. Après, il ira chez une connaissance. Shana, la vingtaine, elle est déjà venue la veille avec son compagnon. Ils sont à la rue tous les deux.
Ça peut être compliqué. Des fois, on est obligé de faire la manche pour avoir à manger. Ou des fois, on va avoir la Croix-Rouge mobile.
Pour dormir, vous faites comment ?
On appelle le 115 tous les jours. Quand il n'y a pas de place, on essaie de trouver un endroit assez chaud, avec des couvertures.
Là, au moins, vous avez un lit pour quelques jours.
Oui, c'est ça.
Et le gymnase reste hébergement d'urgence jusqu'à lundi matin. Ensuite, les températures devraient remonter.
Reportage ici, Normandie. Le froid hivernal qui favorise l'épidémie de grippe qui court partout en France hexagonale. Le pic de l'épidémie est imminent. Concernant les hôpitaux, l'activité est forte. Mais on est encore loin des chiffres de l'an dernier qui avaient conduit à l'activation des plans blancs dans plusieurs hôpitaux. C'est ce que fait savoir ce matin le syndicat SAMU Urgence de France. Reste qu'avec les repas de Noël, la circulation de la grippe va s'accélérer. Alors, comme au temps pas si lointain du Covid, vous êtes nombreux à vous faire tester en ce moment, soit pour savoir si c'est bien la grippe quand vous êtes malade, soit pour s'assurer que vous ne portez pas le virus avant d'aller voir vos proches. Exemple dans cette pharmacie de Nantes, Thaïs Moreau.
Pendant les vacances, c'est près d'une dizaine d'autotests qui sont vendus chaque jour à la pharmacie d'Alain Touzeau.
C'est toujours bien de faire un autotest pour savoir si effectivement on a le Covid et ou la grippe. Surtout si on doit rencontrer des gens un peu fragiles. Alors ça peut être des gens âgés, mais ça peut être des gens qui ont des problèmes de santé, respiratoires, cardiaques. Donc c'est se protéger soi pour éviter d'avoir une grippe. C'est jamais très agréable et c'est fatigant. Mais c'est surtout pour éviter de contaminer les gens qu'on va rencontrer durant les réveillons ou autour de la galette de début d'année.
Certains ont été prévoyants.
Vous êtes tous vaccinés ?
Tous vaccinés.
D'autres affluent ces derniers jours à la pharmacie pour se faire vacciner en dernière minute. Alain Touzeau voit son stock s'écouler avec seulement quelques doses restantes.
C'est un peu tardif puisque la grippe est déjà présente sur Nantes. Donc c'est encore jouable à condition de ne pas rencontrer le virus durant les quelques jours après la vaccination. De toute façon, il est grand temps de se vacciner. Donc les derniers qui veulent le faire, il faut le faire maintenant.
Le pharmacien rappelle les gestes barrières, le lavage régulier des mains et le port du masque en cas de symptômes.
Reportage Thaïs Moreau, ici Loire-Océan. Toujours 3 départements en vigilance orange pour crue ou pluie, inondation. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude et la Haute-Corse où un pont s'est effondré aujourd'hui sans faire de victime à Saint-Florent près de Bastia. Les prévisions météo complètes, ce sera à la fin de ce journal avec Elena Morna. Quand dans l'Hérault, la décrue se poursuit et l'heure est au nettoyage après les inondations du début de semaine. Pas de victimes, pas de dégâts majeurs, mais beaucoup de maisons inondées à Palavas-les-Flots par exemple. 150 personnes sinistrées ont dû être relogées. Un Noël quelque peu gâché. Marie habite avec ses parents à Palavas.
On est rentré, il y avait ça d'eau dans la maison. Dans le jardin. On était fatigués. Heureusement qu'on a de la famille qui a pu nous accueillir, quoi, parce que sinon c'est moins fun dans une maison froide, humide. Ouais, on a quand même passé un bon réveillon avec l'esprit de famille.
Et là aujourd'hui c'est nettoyage.
Ouais aujourd'hui c'est nettoyage. On enlève le maximum de linge mouillé pour pas que ça pourrisse. On essaie de chauffer la maison pour enlever l'humidité. Il faut frotter aussi pour pas que tout ce qui était les dépôts qui est présent dans l'eau sale se reste accroché et que ça empeste. Ça va, le moral est là quand même. Même si, il y aura des répercussions, ça va être un long projet là.
Un témoignage au micro d'Adèle Chiron, ici Héros. C'est donc avec l'assentiment et les renseignements fournis par les autorités locales que les États-Unis ont frappé plusieurs cibles hier, le jour de Noël. Au Nigeria, frappe dirigée contre des islamistes, des groupes terroristes actifs dans cette partie de l'Afrique. Joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts qui seront encore plus nombreux si leur massacre des chrétiens se poursuit. Ça, c'est ce qu'a écrit Donald Trump sur son réseau social cette nuit. Alors, au-delà des annonces de l'ampleur de ces frappes qu'on ne connaît pas encore précisément, regardons les cartes. La situation sécuritaire au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, l'un des plus riches aussi. Bonjour Valérie Crovin.
Bonjour.
Les États-Unis disent donc avoir visé des terroristes du groupe État islamique. Les groupes djihadistes sont très actifs au Nigeria, Valérie.
Alors, pas seulement des groupes djihadistes. Pour faire simple, il y a des bandes criminelles qui sévissent dans le nord-ouest, une insurrection islamiste dans le nord-est, des conflits fonciers dans les régions centrales et des troubles séparatistes dans le sud-est. Pour ce qui est des groupes djihadistes, le plus connu est Boko Haram, qui a acquis une notoriété mondiale en 2014 avec l'enlèvement de plus de 2200 écolières du village de Chibok. Implanté dans le nord-est du Nigeria, Boko Haram s'est ensuite scindé en factions rivales après la mort de son chef Abubakar Shekau il y a 4 ans. Le groupe continue néanmoins de mener des attaques contre des civils et les forces de sécurité nigérianes. Parmi les groupes dissidents de Boko Haram, il y a l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui est lui aussi très actif dans le Nord-Est et mène des attaques ciblées. Il a par exemple tué récemment un général de brigade nigérian lors d'une embuscade dans l'état de Borno.
Pour justifier ces frappes, Valérie Crova, Donald Trump parle de massacre de chrétiens dans cette région. Est-ce que c'est vrai? Sur quoi il s'appuie?
Alors, en novembre dernier, quand le président américain reprend le chiffre de plus de 3000 chrétiens assassinés au Nigeria, il fait référence à un rapport d'une organisation chrétienne internationale qui s'appelle Porte Ouverte, qui enquête sur les persécutions des chrétiens à travers le monde. Sauf que dans ce rapport, qui est remonté sur les 12 mois précédents, l'ONG recensait également la mort de 2300 musulmans sur la même période. Les Nigérians de confession musulmane sont donc eux aussi visés par des attaques violentes, souvent liées à des tensions ethniques ou à des conflits fonciers.
Valérie Crova, rédaction internationale de France Inter, pour cet éclairage. C'est donc un nouveau dossier pour Donald Trump, personnalité la plus citée cette année dans les médias français. Bonjour Cyril Petit.
Bonjour.
Journaliste à Ouest France, les auditeurs du 13-14 vous connaissent puisque vous êtes chroniqueur chaque mardi dans cette émission. Aujourd'hui, vous êtes notre invité parce que c'est votre journal qui dévoile ce classement annuel des personnalités les plus médiatisées de France, baromètre réalisé par Tagadé, plateforme de veille des médias. D'abord, Cyril, en un mot, quelle est la méthode, en fait, quels sont les contenus étudiés, écoutés?
En fait, il y a plus de 38 millions de contenus qui ont été analysés, qu'ils viennent de la presse écrite, qu'ils viennent du web, qu'ils viennent de la radio, votre antenne notamment, ou de la télévision. Et puis, on va compter le nombre de fois où le nom d'une personnalité apparaît. Il y a 17 000 personnalités qui sont analysées. Ouais. Et puis, on va faire le classement de celles dont le nom apparaît le plus. Vous l'avez prononcé juste avant qu'on se parle, Donald Trump. Donc, voilà, votre journal, Kevin, rentrera dans ce classement.
Pour la première fois depuis qu'il existe ce baromètre, c'est-à-dire 2013, Cyril, ce n'est donc pas le président de la République française qui est le plus cité dans les médias français, mais le président américain.
Non, oui, en effet, comme vous le dites, c'est inédit et puis ça en dit long, finalement, vous l'avez dit en introduction. À chaque fois, depuis la création de ce baromètre, c'était le président français en exercice, donc François Hollande au début, Emmanuel Macron ces dernières années, qui était en tête et parfois très loin devant dans ce classement. Il faut savoir que lors du premier mandat de Donald Trump était à chaque fois deuxième. Mais là, cette année, Trump s'envole et c'est près d'un million de contenus qui cite son nom à 950 000. Emmanuel Macron, c'est 671 000. Donc, c'est plus de 40% pour Donald Trump. Donc, on peut dire qu'il est omniprésent. Alors, il faut préciser que ça ne veut pas dire qu'il s'exprime dans ses contenus.
C'est-à-dire juste, c'est son nom qui est cité. Voilà, il faut bien...
Exactement.
Avez raison, il faut le rappeler.
Et quelle que soit la tonalité des contenus, c'est-à-dire que ces contenus peuvent être tout simplement factuels, ce qui est le cas de la plupart des contenus journalistiques, puisque les journalistes racontent le monde, et puis dans des éditoriaux, dans d'autres types de contenus, on peut aller débunker, comme on dit, comme vous venez de le faire tout à l'heure, aller voir si la petite phrase qu'il a prononcée est vraie ou si elle est exagérée. Mais voilà, il n'y a pas c'est un classement 100% quantitatif, donc qui en dit long finalement.
Pour qu'on donne une idée à nos auditeurs aussi, c'est son nom cité dans 130 113 contenus par heure en moyenne. C'est vraiment énorme. Mmh.
C'est une moyenne, évidemment. Il y a des heures où c'est beaucoup plus. Ce matin, je regardais rien que sur le fil AFP, hein, l'agence France Presse, qui donne les informations.
Qui nous donne des dépêches avec lesquelles on travaille nous-mêmes à France Inter.
Voilà. Ouais. Je crois que ce matin, il y a une dizaine de dépêches, dont celle qui parle de notre fameux baromètre Tagadé, oui. qui cite Donald Trump. Donc voilà. Donc on est sur des dimensions presque jamais vues. Il l'inonde partout. D'abord par son hypercommunication, vous l'avez dit, mm-hmm. mais aussi parce qu'il prend parfois des grandes décisions et puis parfois des petites phrases qui elles-mêmes sont parfois des mensonges ou des erreurs, mais en tout cas sur lesquelles les journalistes soit donnent l'info, soit rebondissent et débunkent.
Justement, Cyril Petit, est-ce que c'est pas aussi un signe ou est-ce qu'on doit pas se poser la question, est-ce que nous, journalistes, on ne se laisse pas parfois un peu avoir par l'hypercommunication de Donald Trump ?
On se pose tous la question, votre rédaction comme la mienne. Après, vous le savez, notre rôle de journaliste, nous, c'est de raconter le monde tel qu'il est, tel qu'il se dit, tel qu'il se construit. Quand le président de la première puissance mondiale dit des choses, il faut toujours se demander la question de savoir s'il faut ou non reprendre ces choses. Mais par principe, ça mérite très souvent d'être dit. Et puis, vous l'avez dit aussi, d'être ensuite analysé, expertisé, de ne pas s'arrêter seulement aux faits, comme vous venez de le faire juste avant avec le Nigeria, où vous avez bien expertisé les propos de Donald Trump.
Un dernier mot, Cyril, est-ce que ça veut aussi dire quelque chose, ce baromètre et la deuxième place d'Emmanuel Macron, d'un retrait du président de la République sur la scène politique nationale cette année, en raison de l'instabilité qu'on connaît ?
C'est évidemment le corollaire avec le pouvoir qui a été redonné au gouvernement et au Parlement. Et puis, pour terminer, symbole de ça, c'est le troisième de ce classement, c'est François Bayrou, qui fut l'un des deux premiers ministres de cette année. Et puis le sixième, c'est Sébastien Lecornu, le premier ministre actuel. Tous les deux sont montés très fort dans ce classement cette année, tandis que le chef de l'État, lui, a perdu une place et un certain nombre de citations.
Merci beaucoup, Cyril Petit, donc journaliste à Ouest-France. On vous retrouve bien sûr mardi prochain et toute la saison dans le 13-14. Je vais le citer une fois de plus, Donald Trump, puisque Volodymyr Zelensky affirme qu'il le rencontrera dans un avenir proche. Le président ukrainien estime, je cite, que beaucoup de choses peuvent être décidées avant le nouvel an concernant la guerre avec la Russie. Avant-hier, Volodymyr Zelensky a détaillé une nouvelle version du plan de paix américain qui exclut pour l'instant la question des territoires et acte le gel de la ligne de front actuelle entre l'Ukraine et la Russie. Voilà qui est plutôt inhabituel en Chine, critiquer une figure du pouvoir central. C'est pourtant ce qu'il se passe ces dernières heures et la mort de Peng Peiyun. Elle était responsable de la planification familiale dans les années 90 en Chine et donc de la politique de l'enfant unique, ce strict contrôle des naissances qui a traumatisé le pays, menant à la mort de milliers de nouveau-nés. Et bien sur les réseaux sociaux, certains internautes se laissent aller à la critique. Sébastien Berriot est en Chine pour Inter.
Le décès de Peng Peiyun a été annoncé par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, qui évoque une combattante communiste loyale et salue son travail auprès des femmes et des enfants. Mais sa disparition est vue de manière très différente par de nombreux internautes chinois qui n'hésitent pas à braver la censure en assimilant ouvertement l'ancienne directrice de la planification familiale aux années les plus sombres de la politique de l'enfant unique, lorsque dans les campagnes chinoises, des femmes étaient contraintes à avorter ou à être stérilisées. « Ces enfants perdus vous attendent là-haut, dans l'au-delà », écrit un internaute sur le réseau social Weibo. « Ces enfants, s'ils étaient nés, aurait presque 40 ans aujourd'hui », écrit un autre Chinois. Cette fois, la censure n'a pas effacé les messages. Même lorsque les internautes remettent ouvertement en cause la politique de l'enfant unique, responsable selon eux en partie de la situation actuelle de la Chine, qui n'arrive plus à renouveler sa population, faute de naissances suffisantes.
Sébastien Berriot en Chine pour France Inter. Cette dernière minute, la police israélienne annonce qu'un Palestinien a tué aujourd'hui une femme et un homme dans le nord d'Israël. Il était au volant d'un véhicule, donc ça s'est passé donc dans le nord d'Israël. Plus d'informations évidemment dans nos prochaines éditions.
France Inter, le 13-14. Kevin Dufraisse.
À Bordeaux, un homme de 19 ans a été tué par balle hier soir dans le quartier des Aubiers, connu pour abriter un point de deal. Deux suspects ont été interpellés peu de temps après à Bruges, c'est à quelques kilomètres de Bordeaux. Une enquête est ouverte pour meurtre en bande organisée. Dans les Vosges, deux gendarmes ont été blessés hier soir, renversés par un automobiliste après un refus d'obtempérer. Information donnée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a précisé que leur pronostic vital n'était pas engagé. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
L'automobiliste est toujours recherché.
Oui, un homme qui, selon le récit des gendarmes, a reculé sur un premier motard après qu'ils lui ont demandé de s'arrêter, est reparti et a fait demi-tour et foncé sur le deuxième militaire. Alors, sans toujours en arriver à ce qui est décrit ici comme une volonté de blesser, près de 25 000 personnes ont refusé de s'arrêter pendant un contrôle l'an dernier, selon le ministère de l'Intérieur. Grégory Joron est secrétaire national du syndicat de police Unité.
1 sur 5 qui est dangereux et qui met donc en danger soit les policiers, soit des piétons, soit d'autres usagers de la route, on se dit qu'on a réellement un vrai souci. Le contrôle d'un véhicule, c'est quasiment la mission la plus dangereuse pour les policiers ou les gendarmes. Là où avant, il y a 25 ans, c'était souvent les différents familiaux où on ne savait pas ce qu'il y avait derrière la porte. Aujourd'hui, malheureusement, on ne sait pas qui est derrière le volant.
Avec derrière la difficulté, par définition, de mettre la main sur ces automobilistes.
Il faut évidemment des moyens d'enquête. Il faut qu'on puisse avoir aussi une facilité sur les saisies. Aujourd'hui, c'est une catastrophe si vous voulez saisir pour détruire un véhicule qui a servi à un refus d'obtempérer. La démarche est extrêmement longue et c'est sur ce genre de levier qu'on est encore, à mon sens, très léger par rapport au risque.
Sachant que cette confiscation est prévue par le code de la route, si des personnes ont été mises en danger, encore faut-il retrouver le véhicule et que le mis en cause en soit propriétaire.
Ariane Grissel, comment financer les besoins des étudiants, souvent précaires en matière de santé mentale? Alors il existe le dispositif Mon Soutien Psy avec 12 séances prises en charge par an, mais tous les psychologues n'y participent pas, loin de là. C'est parfois difficile d'en trouver un. Et puis ces problématiques concernent aussi les étudiants étrangers qui ne sont pas pris en charge dans le cadre de ces dispositifs. Alors à Paris, la Cité internationale universitaire lance une collecte pour financer l'accompagnement psy. 80% des 12 000 résidents de cette cité universitaire sont des étudiants étrangers, Laurélie Carive.
Un an après son arrivée sur le campus de la Cité internationale universitaire, Isadora, étudiante brésilienne de 28 ans, a commencé à avoir des idées suicidaires.
Je me suis tombée un peu mentalement malade. J'ai eu de la dépression parce que j'étais toute seule, toute isolée, des enjeux aussi financiers. La pression des réussites à l'école, aussi des pressions écologiques.
Aujourd'hui, elle consulte à distance un psychiatre au Brésil pour son traitement, mais pour des raisons financières, a renoncé à un accompagnement psy en France. Il y a bien une psychologue sur le campus au sein du relais social, mais la liste d'attente est longue. Samantha Daboville tente donc avant tout de parer au plus urgent.
Ce qu'on essaye vraiment de faire en tant que service de proximité, c'est de solutionner un peu cet entre-deux. Les services publics et les services qui existent actuellement sont assez saturés. On reçoit des jeunes qui sont en détresse, qui recherchent des solutions plutôt immédiates d'un premier accueil, même si ça ne peut pas être un suivi très régulier, mais on voit à quel point ça peut déjà être contenant.
Avec cette campagne d'appel aux dons, la Cité internationale universitaire espère donc doubler le nombre de résidents qui bénéficient d'un accompagnement psychologique. Elle veut aussi proposer des consultations psychiatriques gratuites et des actions pour renforcer le lien social.
Laurélie Carive, les agriculteurs ont levé le camp à Cestas en Gironde. Fin du blocage sur l'autoroute A63, annonce ce matin de la coordination rurale. C'est l'un des derniers barrages tenus depuis près de 2 semaines et le début de la mobilisation contre les abattages de troupeaux de bovins touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. Le syndicat dénonce dans son communiqué malgré tout le silence et le mépris, je cite, des pouvoirs publics face à la revendication. Il réclame toujours l'abattage uniquement des bêtes malades. Mais ce n'est pas assez efficace pour freiner l'épidémie selon les vétérinaires. Et c'est maintenant la circulation des virus chez les baleines qui nous intéresse. Surtout, comment les détecter, savoir si elles sont porteuses de maladies sans les déranger dans leur habitat naturel? Pour faire mieux et répondre à cette question, eh bien des scientifiques utilisent désormais des drones. Rémi Brancato, vous êtes toujours avec nous. Une équipe de chercheurs utilise ces engins en Norvège. Repérer des virus chez les baleines par les airs, ça permet donc de les laisser tranquilles. Comment ça marche?
Eh bien, d'habitude, les chercheurs Kevin analysent les cadavres de baleines échouées, mais ils se dégradent vite. Ils peuvent aussi s'approcher des cétacés en bateau pour prélever de la peau. Opération risquée, invasive. Alors une chercheuse de l'Université du Nord en Norvège a eu l'idée d'utiliser ces drones. On les dirige dans le souffle d'eau rejeté par les baleines à la surface. Son collègue Pierre Blévin, biologiste marin à l'Institut Aquaplan Niva en Norvège, co-auteur de l'étude, nous explique.
Lorsqu'on
on a des groupes de baleines. On est sur un petit bateau à distance des groupes. On lance le drone quelques mètres au-dessus de la baleine. Une fois que l'échantillon est collecté, on ramène le drone sur le bateau. Il n'y a absolument du coup aucune perturbation. Alors que quand on va par exemple collecter des biopsies, on va quand même aller à proximité de l'animal, collecter un petit morceau de peau. Donc c'est un peu plus intrusif.
Résultat de cette publication dans la revue BMC Veterinary Research, une contamination au morbillivirus pour deux baleines à bosse et un cachalot. C'est un virus respiratoire très contagieux dont on connaît mal la prévalence.
C'est très difficile de détecter le morbillivirus dans la graisse et dans la peau. Il y a 2-3 ans, on a vu notamment des orques mourir. On ne comprenait pas trop, mais on suspecte que ces individus-là auraient pu mourir en partie à cause de cette présence de virus.
C'est en tout cas la première fois qu'il est détecté au-delà du cercle polaire arctique. La grippe aviaire, en revanche, susceptible d'être transmise par des oiseaux marins, n'a pas été retrouvée.
Rémi Brancato, Manchester United contre Newcastle. Voilà une belle affiche de Première Ligue ce soir à 21h en Angleterre. C'est une tradition chez nos amis anglais. Jouer le 26 décembre, le lendemain de Noël, c'est le fameux Boxing Day. Quand en Amérique du Nord, on joue au basket le jour de Noël, traditionnelle journée de NBA hier, cette nuit pour nous en France. Et l'une des informations de cette nuit, c'est la super forme, toujours des Spurs de San Antonio, l'équipe de Victor Wembanyama. Pour la troisième fois en quelques jours, les Spurs ont battu le Thunder d'Oklahoma City, qui n'est autre que l'équipe championne NBA en titre. Jean-Pierre Blimaud, San Antonio est maintenant un sérieux candidat au titre en basket.
Avec une victoire à Las Vegas mi-décembre en demi-finale de la NBA Cup, une autre mercredi à domicile et une troisième hier, le soir de Noël, sur le parquet d'Oklahoma City, les joueurs de San Antonio ont à la fois marqué des points et les esprits. Pour Bastien Fontagneux, directeur de publication de Trash Talk, média spécialisé dans le basket et notamment la NBA, on ne peut plus parler de hasard.
De faire ça en déplacement, dans une salle hostile, à Oklahoma City, devant les caméras du monde entier, avec des effectifs quasiment au complet, c'est ce qu'on appelle une équipe qui, au plus grand moment, répond présent.
Les commentateurs de la chaîne ESPN ne s'y trompent pas. Wembanyama. Une fois de plus, le géant tricolore a joué un grand rôle avec 19 points et 11 rebonds en 26 minutes sur le parquet. D'autant plus marquant que les joueurs d'Oklahoma City Thunder écrasent la concurrence depuis des mois. Mais pour Bastien Fontagneux, Victor Wembanyama est justement le symbole de celui qui regarde les champions en titre dans les yeux.
Il est tellement impressionnant que la plupart des adversaires disent « on est obnubilé par lui ». Cette équipe fonctionnait déjà pendant que Victor Wembanyama était blessé. On a donc l'impression que Wemby et les Spurs peuvent croire en tous leurs rêves.
Bien sûr, nous ne sommes qu'en décembre et il va falloir attendre la fin de saison, notamment les matchs de play-off en avril et en mai, dans un contexte bien différent.
Et oui, la saison est encore très longue. Jean-Pierre Mimot du service des sports de France Inter, 13h27 sur France Inter. Dans une minute, Elena Morna donc pour la météo. Puis à 13h30, on file à Nîmes retrouver Jade Vatremez, sa maman et son coach David, double amputé des jambes. Jade a 12 ans seulement et c'est déjà une grande sportive. Son histoire, son quotidien, ses rêves de JO aussi. Elle en parle avec nous et avec vous, amis auditeurs, 01 45 24 7000 au téléphone ou l'application Radio France, rubrique Réagir. À 13h45 sur les traces d'Ousmane Dembélé. Dernier épisode de notre feuilleton, retour à Évreux, la ville de naissance du Ballon d'Or. Puis bonjour Virginie Troussier.
Bonjour Kevin.
C'est la France, un grand bol d'air avec vous comme chaque vendredi. Vous nous emmenez où ?
Les Drues, deux pics d'une montagne à Chamonix, montagne rêvée, montagne mythique, à l'honneur dans Solitude, le livre de Benjamin Védrine, l'occasion de nous demander pourquoi certaines montagnes nous aimantent.
Et puis notre semaine spéciale Charles Aznavour dans C'est une chanson se termine avec La Bohème, le choix de l'acteur Gilles Alma.
Je tournais à l'autre bout de la France et j'ai loupé sa naissance d'une heure et demie. Donc je suis arrivé très essoufflé, je suis arrivé le cœur un peu lourd. L'infirmière m'a remis cette petite chose dans les bras et je sais pas pourquoi, je me suis dit il faut que je chante une comptine. Et la seule comptine qui est venue, c'est La Bohème de Charles Aznavour. Pourquoi, comment, aucune idée.
La chanson liée à la naissance de son fils Gilles Alma avec Frédéric Pommier juste avant 14h.
France Télévisions, demain soir. Pour le grand retour de The Floor, vibrez encore plus fort avec Cyril Ferraud.
100 candidats, 100 catégories et 100 000 euros à la clé pour celui qui va conquérir la totalité du sol.
Inédit, The Floor, à la conquête du sol, demain soir à 21h10 sur France.tv et sur France 2.
Le temps de votre week-end.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Elena Morna, bonjour.
Bonjour.
Trois départements, on en parlait dans le journal, sont toujours placés en vigilance orange.
On commence par les Pyrénées-Orientales qui cumulent deux vigilances, pluie, inondation et crue. Le vent marin, facteur aggravant, provoque de fortes vagues qui empêchent les cours d'eau de s'écouler en mer. L'Aude, soumise à de bonnes pluies aussi, est en vigilance crue. Plus à l'est, la Haute-Corse, même régime pluvieux, est en vigilance pluie, inondation, des pluies qui vont s'espacer ce soir. Ailleurs, c'est nuageux sur la moitié sud, des averses dans le sud-ouest, un ciel bleu sur la moitié nord, le tout dans un écart thermique qui va de 2 degrés en bord de Manche jusqu'à 17 en Méditerranée.
Et retour au calme demain dans le sud.
Oui, alors, mais les pluies vont commencer à faiblir lentement entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Encore quelques bons cumuls attendus entre Fenouillère et Vallespir. Le ciel va s'éclaircir sur la moitié sud. Bleu au nord jusqu'à l'arrivée de nuages en fin de journée sur le Nord-Pas-de-Calais. Ils ne feront que passer le temps d'un dimanche sur le Nord-Ouest.
Et retour du soleil, je crois, en début de semaine prochaine. Exact. On a hâte. Merci, Elena Morna.
France Inter. Le 13-14. Kevin Dufraîche.
Quand la vie bascule et change du tout au tout, à 4 ans seulement, trouver de la ressource, avoir des rêves. Le sien, c'est de devenir sportive, de devenir une grande championne. Notre invitée du jour a 12 ans et des jambes de feu, quand bien même elles ne sont pas tout à fait comme les autres. Puisque Jade Vatremez est double amputée, victime d'une maladie infantile rare et foudroyante, c'était en 2017. Aujourd'hui, elle étreint les pistes d'athlétisme avec ses lames. Elle fait aussi du basket, elle va nous en parler. Bonjour Jade.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Inter. Je salue aussi ta maman, Émilie Vatremez, bonjour.
Bonjour.
Et ton coach sportif, ton coach de basket, David Sierra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les trois en direct en duplex de Nîmes. Je remercie nos amis d'ici, Gare Lozère, de vous accueillir. Jade, ton histoire, on l'a découverte au 13-14 grâce à un documentaire de l'équipe il y a un mois. On va parler de sport et de ce que tu aimes faire. Mais d'abord, je sais que tu as dû être opérée il y a quelques semaines, opérée à nouveau. Comment tu vas aujourd'hui ?
Bah, moi, ça va très bien. J'ai eu un petit peu mal. J'ai un peu de mal à marcher.
Ouais.
Mais ça va. Maintenant, j'ai l'habitude. Du coup, voilà.
mais pour l'instant, ça va. Tu es amputé de tes deux jambes. Tu as donc deux moignons, comme on dit. Mais toi, tu les appelles autrement.
Mignons. Je les appelle mignons.
Tu les appelles mignons. Et c'est parce que on a besoin de s'en occuper de tes mignons que tu es opéré régulièrement. Émilie, pour expliquer à nos auditeurs, Jade a donc besoin d'être suivie et souvent réopérée parce qu'elle continue de grandir et ça a une incidence sur sa vie et sur ses prothèses.
Oui, tout à fait. En fait, Jade a au bout de ses mignons, a de la peau greffée. Et la peau greffée n'est pas extensible. Et donc, quand elle grandit, ses os poussent. Et on est obligé d'aller ouvrir, raboter un petit peu et puis de refermer tout ça. Voilà.
Donc, il y a des opérations régulières. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Émilie, avant qu'on poursuive la conversation avec Jade et avec vous trois, cette maladie qui l'a privée de ses jambes, qu'est-ce qu'il s'est passé en 2017?
Alors en 2017, Jade a eu une forte fièvre, a commencé à avoir des marques, enfin une sorte de bleu sur les cuisses et sur les mollets à l'époque. Et puis elle sortait de la sieste et à un moment elle a pas pu poser ses pieds par terre et se mettre debout. Mon beau-père, papy JP, était là, a appelé le docteur, qui a fait appeler les pompiers. Après, elle est partie aux urgences directement au CHU de Montpellier. Et là, ils ont découvert, enfin après des tas d'examens, que c'était un purpura fulminant. Voilà.
Cette maladie donc qui a nécessité cette amputation. Jade, est-ce que tu étais petite, j'allais dire, tu étais très jeune, mais non, tu étais petite, à 4 ans, on est petite. Est-ce que tu te rappelles de ça, de ce que ça t'a fait, de la douleur, ce genre-là?
Je me rappelle de la douleur, ça a fait extrêmement mal. C'est comme si on avait des coups de couteau dans les jambes, en fait. Après, je me rappelle quand j'ai été amputée, forcément. Après, mes parents m'ont bien expliqué, quoi. Donc, je suis pas waouh, parce que maintenant, j'en vis très bien, voilà. Mais j'ai vraiment la douleur que je me rappelle. Franchement, c'était horrible.
Émilie, justement, je le disais, la vie de Jade a changé, la vie de Jade a basculé ce jour-là, mais la vôtre aussi.
Oh, tout à fait. Oui, bah ces jours-là, enfin tous les premiers temps à l'hôpital, ça a été un peu compliqué, surtout quand on nous a appris que pour la garder avec nous, il allait falloir lui amputer ses deux pieds. Ça bascule parce qu'on se dit mais mince, et comment on va faire, et comment on va lui faire avoir une vie normale. Et puis après, elle a surtout un tempérament qui est assez combattant. Donc ça a pris normalité et puis elle continue comme ça, donc voilà.
Combattante, oui, je crois qu'on peut dire ça. On en vient au sport justement. Jade, est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit que tu voulais faire du sport? Parce que je crois que tu n'étais pas forcément une très grande sportive et il y a un jour où tu t'es dit en fait ça va m'aider, je vais y aller. Est-ce que tu te souviens de quand tu t'es dit ça?
Je me souviens, en fait, j'étais allongée dans mon lit, en fait, je faisais rien, voilà. Et un jour, je me suis dit, pourquoi tu restes ici? Tu peux, alors que dans une autre vie, tu pourrais faire du sport, être une grande championne, etc. Du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, va essayer des sports et voilà, quoi. Donc, maintenant, ça m'a fait une vie, quoi.
Et ouais, et donc, et tu fais on va en parler, tu fais de l'athlétisme, tu fais du basket. Sur l'athlétisme, je crois que ton frère t'a montré des vidéos quand justement tu étais allongé dans ton lit. Qu'est-ce qu'il t'a montré et qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu t'es dit? Il t'a montré quoi comme vidéo?
Il m'a montré une vidéo avec une femme avec une lame en fait.
Ouais. Et, des athlètes paralympiques.
Oui, c'est ça. Et du coup, moi je me suis dit, en fait, toi aussi je pourrais avoir ça plus tard. Du coup, voilà.
Et il y a aussi eu. Oscar Pistorius, qu'on connaît, hein, l'athlète sud-africain qui a été le premier, qui lui est amputé lui aussi des deux jambes, hein, qui a deux lames. Et donc tu t'es dit que t'allais faire ça. Aujourd'hui, tu en fais. Hein, je crois que c'est un peu plus compliqué en ce moment pour faire de l'athlétisme, mais oui. Des lames, tu en as toi-même. Tu as voulu courir et tu cours.
Oui, je cours. Oui.
Et qu'est-ce que tu fais comme discipline d'athlétisme? Qu'est-ce qui te plaît le plus?
Au début, moi, j'aimais pas le saut en longueur, mais j'ai rencontré Dimitri Pavadé, qui m'a fait apprendre, et maintenant, j'adore ça, en fait.
Ouais, le saut en longueur, et est-ce que courir, tout simplement, ça te plaît aussi?
Oui, oui, oui.
Et tu fais donc tu fais aussi du basket fauteuil, là, pour le coup, tu ne cours pas sur le parquet, tu fais aussi du basket fauteuil. Je voudrais qu'on en parle un petit temps avec David Sierra, vous qui êtes le coach de basket fauteuil. C'est quel athlète? Jade, justement, on disait combattante tout à l'heure, vous aussi, vous la voyez comme ça?
Oui, tout à fait. En fait, Jade, on l'a découvert au JAP, qui sont les jeunesses à potentiel, en fait, pour les jeunes en situation de handicap.
D'accord.
Et on nous a dessus dit, il faut qu'elle vienne, qu'elle essaye, tu vas voir, il y a un potentiel. Donc elle est venue et franchement, malgré son jeune âge, elle écoute, elle a envie, elle est à fond, en fait. Uh-huh.
Vous dites malgré son jeune âge parce que on joue au basket fauteuil, on joue entre différentes générations, peut-être pas, mais différents âges.
C'est ça, il n'y a pas de classification par catégorie.
D'accord.
C'est des jeunes et des moins jeunes, des seniors. Notre joueur le plus expérimenté a 69 ans et Jade a 12 ans. Uh-huh. Et par exemple, l'année dernière, on l'avait fait sélectionner pour le championnat U23 de France. Et on a dû faire une demande de dérogation puisqu'elle avait 11 ans et qu'on n'a pas le droit normalement avant 11 ans. Donc c'est à partir de 12 ans. Bon, cette année, elle pourra venir sans dérogation. Et elle s'est très, très bien débrouillée. C'était très intéressant.
Déjà dans la cour des grands, Jade, qu'est-ce qui te plaît dans le basket fauteuil? Là, pour le coup, c'est un sport d'équipe. L'athlétisme, c'est plus individuel. Qu'est-ce que tu aimes dans ce basket fauteuil?
Moi, j'adore l'esprit d'équipe. Franchement, après, ça fait pas comme si t'étais dans ta bulle. Même si l'athlétisme, ça te fait comme si t'étais dans ta bulle, t'es à fond, etc. Mm-hmm. Bon, basket fauteuil, c'est la même chose, juste avec ton équipe. En fait, tu dois juste créer de l'amitié, du bon feeling avec ton équipe et ça va très bien. Et après, moi, j'adore marquer des paniers. Hein.
Ouais, t'es une bonne marqueuse de ce que je comprends. Jade, il faut être motivé quand même pour le faire parce que je crois que c'est loin de chez toi. Hein. Vous allez jouer à Montpellier alors que vous habitez dans le Gard.
Oui, c'est ça.
Émilie, justement, dans l'organisation du sport aussi pour Jade, ça c'est un paramètre à prendre en compte. Vous faites une heure et demie de route, c'est ça, ne serait-ce que pour aller à l'entraînement?
Oui, on a une heure de route pour aller sur Montpellier. Mm-hmm. Après, sur l'organisation, il n'y a pas de basket fauteuil dans le Gard pour le moment. Donc, en l'occurrence, on nous avait, lors des JAP, comme disait David, on nous avait présenté le fait d'aller sur Montpellier pour pratiquer. Mm-hmm. Et quand vous avez une jeune fille qui vous dit je veux, on fait.
David Sierra, justement, sur cet aspect-là, sur la pratique du handisport, c'est compliqué. Il y a un manque d'infrastructure, un manque de clubs. Ils viennent de nombreux d'autres régions. Ils ne viennent pas que de Montpellier. Donc,
en effet, c'est compliqué parce que nous, on est le seul club de la région Languedoc-Roussillon. Donc, on essaie de prendre au plus large possible. Mais après, il y a les déplacements, il y a tout ça. Donc, nous, on a fait le choix d'adapter nos entraînements pour les mettre le vendredi soir pour que les jeunes qui viennent un peu de loin puissent venir parce que le lendemain, ils n'ont pas école. Mm-hmm. Après, à Montpellier, on a une infrastructure qui est intéressante. Et nous, on a fait le choix avec le MHBA de mettre en place des entraînements pour aider les jeunes et même les moins jeunes, hein, tous ceux qui ont envie de découvrir, même les valides d'ailleurs, pour permettre de faire découvrir et faire connaître ce sport. Et plus ce sera connu, plus ça permettra de potentiellement d'avoir de l'argent et de développer un petit peu plus la pratique.
Émilie, je disais, votre vie a changé, évidemment. Et justement, pour vous occuper de Jade, pour pouvoir l'emmener à l'entraînement, etc., vous avez arrêté de travailler, vous ?
Alors, pendant l'hospitalisation de Jade, oui, j'ai arrêté de travailler. J'ai repris. Hein.
D'accord.
J'ai repris puisque Jade est quand même très indépendante. J'ai repris.
Jade, je reviens à l'athlétisme parce que dans le documentaire, tu parles de tes lames en disant « c'est pas comme des pieds ». Pourquoi tu dis ça ? C'est quoi la différence entre tes prothèses de sport et tes prothèses classiques ?
Mais en fait, moi je trouve que les gens qui courent, on trouve ça normal parce que tout le monde est comme ça.
Ouais.
Alors que quand t'as une lame, c'est différent. Ils me disent « Ah ouais, non mais elle a une lame, c'est beaucoup plus dur, etc. » Donc c'est beaucoup plus stylé en fait.
C'est ton super pouvoir un peu ?
Oui, vraiment.
et tes amis au collège, tes copains, tes copines, qu'est-ce qu'ils en ont dit ou qu'est-ce qu'ils en disent du fait que tu fasses du sport ?
Bah, ils disent franchement que c'est super, ils me disent que je suis courageux, etc. Parce qu'il y a des enfants qui arriveront pas. Mais moi, je trouve que tout le monde peut y arriver, franchement. Après, moi, je me vante pas, mais voilà. Mais mes copines me disent que je suis très forte et que c'est bien ce que je fais.
On va aller au standard tout de suite, accueillir Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour, bonjour l'équipe de France Inter. Bonjour Émilie. Bonjour Jade.
Ah, vous vous connaissez visiblement.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Pascal ?
Moi, ce que je voulais dire, c'est que Jade est une petite fille extraordinaire. Mais je voulais dire aussi qu'elle avait des parents et un frère et une famille extraordinaire. Ils ont transformé leurs épreuves avec une joie de vivre qui se partage, qui diffuse. Et donc, rien que pour ça, j'ai envie de leur dire merci. Merci à Jade. Merci d'avoir transcendé ce handicap en quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'était ça que je voulais dire.
Merci beaucoup, Pascal.
Alors, Émilie, qui est Pascal ?
Pascal, en fait, je suis secrétaire de mairie et Pascal m'a recrutée à
D'accord.
mon poste. Voilà, Pascal était la maire de Crespian, où je travaille.
Jade, quand tu entends Pascal et que tu entends d'autres personnes, est-ce que tu te dis que tu peux être toi aussi un exemple un jour ? Parce que des exemples tu en as, il y a des sportifs que tu as vus. Est-ce que toi tu te dis que tu veux être un exemple ?
Ah oui, moi je suis un exemple.
Un exemple de quoi ? Alors tu veux être un exemple dans le sport, dans la vie de manière générale ?
Ben, de la vie, voilà, parce qu'il y a des enfants qui sont handicapés, qui ne peuvent pas forcément bouger. Moi, je veux leur dire que tout est possible dans la vie, que même si que ce soit en fauteuil électrique ou en fauteuil où tu marches, dans tous les cas, tu peux faire du sport et faire ce que tu veux faire. Voilà, c'est tout.
Est-ce que tu as un rêve de compétition, Jade ? Qu'est-ce que tu voudrais faire ?
Aller aux Jeux Olympiques.
Lesquels ? Les prochains ? Parce que c'est dans 3 ans.
Non, pas les prochains, les autres, parce que je suis un peu trop petite quand même.
Ah ouais, mais c'est vraiment ce que tu vises. Un jour, tu te dis, quand t'as regardé les Jeux de Paris l'année dernière, tu t'es dit, un jour, ce sera moi.
Ah oui.
Et ce sera sur la piste d'athlétisme ou ce sera en fauteuil ?
Les deux, hein, j'espère.
Franchement. Tu veux... Et faut que t'en laisses pour les autres. Émilie, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'elle va avoir le droit d'aller au jeu?
Oh, ben oui, elle va y avoir le droit. Hein. Tu vas y avoir le droit.
J'espère.
Émilie, j'avais une question sur le coût de tout ça aussi, parce que les prothèses spécifiques au sport, ça coûte très cher et je crois que ce n'est pas remboursé ou mal remboursé. Est-ce qu'il y a des aides?
Alors, non. À partir du moment où...
Et ça coûte combien, pardon?
Pour les lames, en l'occurrence, Jade étant double amputée, les lames coûtent, alors en boiture plus lames, coûtent 18 000 euros.
D'accord. Et donc, voilà. Rien de tout ça n'est remplacé?
Rien.
N'est remboursé, pardon.
Non. À partir du moment où c'est du loisir, rien n'est pris en charge. Voilà.
Et est-ce qu'il y a des aides d'une manière quelconque, des associations, du prêt, comment ça se passe?
Alors, c'est essentiellement grâce à des associations. En l'occurrence, nous, c'est grâce à Entraide qui fournit les lames et à notre prothésiste qui crée l'emboîture. Voilà.
D'accord. Jade, tu as 12 ans, tu es en cinquième, on vient de raconter un petit peu ton histoire. On l'a dit, tu dois encore aujourd'hui faire avec les opérations, avec la douleur parfois. Et malgré tout, tu vises les jeux, tu y crois. Elle vient d'où, toute ta force, toute cette force, elle te vient d'où?
De mes proches, de tous les enfants déjà, et surtout de ma famille aussi, parce que ils m'aident souvent, voilà, hein, c'est ma famille, donc ils m'encouragent, etc. Et moi aussi, parce que moi je me dis que tout est possible et que un jour, j'espère que j'y serai.
Eh ben merci beaucoup Jade. En tout cas, le documentaire s'appelle L'enfant et la lame. C'est à voir sur le site de L'Équipe, réalisé par Christine Thomas. Merci Émilie Vatremez d'avoir été avec nous aussi. Merci David Sierra. Je salue, je crois que ton papa est aussi en régie, que le grand-père est aussi là. En tout cas, merci à tout le monde. Et merci encore une fois à nos amis d'ici Gare-Lozère, grâce à qui vous étiez en direct avec nous depuis Nîmes. Et Jade, on se donne rendez-vous donc à Brisbane en 2032. Hein, c'est ça, on va en Australie.
Oui.
Ah ouais, d'accord, pour les Jeux Paralympiques. Et si t'y vas, j'y vais aussi. À bientôt.
Allez.
Merci beaucoup.
Au revoir,
et à
beaucoup.
Très vite. Une semaine dans leur vie maintenant sur les traces d'Ousmane Dembélé, notre série de reportages qu'Emma Sarango a tourné juste avant la remise du Ballon d'Or à l'attaquant du Paris Saint-Germain, c'était en septembre dernier. Lundi, elle était là où tout a commencé pour lui, sa ville d'Évreux en Normandie, et on boucle la boucle aujourd'hui. Quel héritage à Évreux ?
C'est le haut-parleur de la ville en soi.
Il a un peu mis la lumière déjà sur notre ville, déjà faut le dire. Parce qu'on n'entend pas souvent des bonnes choses. Et ça, c'est une très très bonne chose. C'est une étoile. C'est une étoile pour la ville.
Ousmane, Ballon d'Or.
Maintenant, avec la notoriété qu'il a, la ville, elle sait qu'il y a des talents. Et du coup, faut investir sur eux. Ici, sur ce terrain-là, je crois que ça doit faire 2 ans, ils nous ont mis un synthétique. C'était du béton, ils nous ont mis du synthétique. Aujourd'hui, on peut jouer tranquillement, sans se blesser. C'est grâce à lui.
Et surtout, quand on le revoit et quand il revient nous voir, c'est toujours la même personne. Donc, on est fiers de lui.
Quand je le croise, en tout cas, c'est jamais seul. C'est souvent avec des petits. Et, allez, on va manger, on va là-bas, on se balade, je joue pas ici. Pour les grands, pour les petits, pour les moyens, pour tout le monde.
Ça, on l'aime, hein, dans la simplicité.
S'il remporte le Ballon d'Or, le quartier aura un Ballon d'Or. Ouais, ce sera incroyable.
Là, je vois personne d'autre que lui.
En tout cas, dans le top 3, il y a au moins 2 joueurs du PSG. Au moins.
Là, ils ont fait une saison.
Dans le top 5, il y en a
incroyable.
Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas le Ballon d'Or.
Le Ballon d'Or, il va ramener à Évreux.
Voilà. Il n'y a pas de débat.
On est trop mal, les Bleus, avancez un peu.
La première chose qu'on voit, c'est ce grand portrait, cette grande affiche. Quand on franchit la grille de ce stade Mathieu Bodmer, un peu à l'extérieur d'Évreux. Évreux, terre de champions. Avec plusieurs joueurs passés ici, Brice Samba, Steve Mandanda, Dayo Upamecano, mais surtout au centre, en gros, qui brandit le poing et qui rugit, Ousmane Dembélé, saison 2004-2010, la fierté donc de ce club Évreux FC 27.
Romaric Bultel, conseiller du président Samuel Brigantino, depuis peu. Sans ça, j'ai toujours été éducateur, entraîneur à Évreux FC 27 depuis ma tendre enfance, et joueur également. c'est celui dont on parle énormément, c'est celui qui a amené la Ligue des Champions avec le PSG. Ici, il y a quand même beaucoup de supporters parisiens.
Dans l'axe, Christelle, dans l'axe.
Ce qu'on ne sait pas forcément quand on ne connaît pas bien le football, c'est que quand un joueur est formé et découvert dans un petit club, dès qu'il est transféré ensuite de club en club, de grand club en grand club, eh bien, le tout premier club touche des indemnités.
En effet, indirectement, parce que ça, en parlant vulgairement, ça ne sort pas de sa poche, mais il y a contribué énormément. Et pour des clubs amateurs, c'est une richesse importante. Clairement, ça met clairement du beurre dans les épinards. Ça donne des moyens de transport pour pouvoir déplacer nos jeunes, refaire les maillots, investir un peu dans le matériel, ballon et tout ce qui s'ensuit. Voilà, on est surtout sur ça, sur ce qui peut être utile pour les enfants.
Combien de jeunes qui viennent de s'inscrire pour cette nouvelle saison? Vous en parlez d'Ousmane Dembélé en franchissant ses grilles.
Oui, bah clairement, tout le monde veut venir à Évreux. C'est pour ça qu'on est limité aussi en place, parce qu'on a à la fois tous nos licenciés qui sont issus d'Évreux à 90%, et on en refuse malheureusement, mais on a aussi toutes les villes limitrophes, enfin, même les départements limitrophes, qui font que les jeunes veulent venir à Évreux, parce que c'est une terre de champions et une façon de travailler à Évreux qui fait qu'on arrive à sortir énormément de joueurs. Donc du coup, tout le monde se dit, bah, y a peut-être une solution miracle.
Voilà, sur les traces d'Ousmane Dembélé, feuilleton signé Emma Sarango, réalisé par Vincent Godard. Série de reportages primés hein, au dernier Micro d'Or, les récompenses de l'Union des journalistes de sport français. Encore bravo à Emma qui l'a emporté en catégorie radio. Et vous retrouvez tous les épisodes sur franceinter.fr à la page du 13-14.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, maintenant la France des cimes et des océans avec Virginie Troussier le vendredi. Aujourd'hui Virginie, nous partons donc à Chamonix, au Dru, une montagne mise à l'honneur dans un livre, Solitude de Benjamin Védrine qui vient de paraître.
Les Drus s'élancent comme deux flèches de granit, aux lignes pures et élancées au-dessus de Chamonix. Un chef-d'œuvre minéral peut-être le plus marquant d'un massif déjà foisonnant de beauté. Visible depuis la vallée, la face ouest des Drus, mur de 1000 mètres, est un haut lieu de l'alpinisme. Un laboratoire de difficultés, disait Jean-Christophe Lafaille, auteur d'une voie mythique ouverte en hiver, il y a 25 ans, par la technique de l'escalade artificielle. L'été dernier, Léo Billon et Enzo Odo ont gravi cette voie en escalade libre, un nouvel exploit dans le massif. La plus marquante des ascensions solitaires a eu lieu en 1955, lorsque Walter Bonatti s'élança seul dans le pilier sud-ouest, encore vierge. 50 ans plus tard, en 2005, le pilier s'écroulait, effaçant à jamais sa voix légendaire et bouleversant la vallée. Dans son livre Solitude, Benjamin Védrine raconte son émotion à l'idée de retrouver ses vestiges avant de s'engager seul, lui aussi dans cette paroi rabotée. Deux longueurs de Bonatti ont survécu dans le haut et Védrine confie qu'il avait hâte de les voir.
Et qu'est-ce qui rend cette paroi magnétique alors ?
Les plus belles montagnes sont celles autour desquelles on tourne beaucoup avant d'envisager leur sommet. Ce sont celles qu'on a longtemps contemplées, interrogées, jusqu'à les faire nôtres par une forme de connivence. Pour beaucoup de chamoniards, les Drus, on les regarde depuis la maison, on traque les lignes aux jumelles. Observer les Drus, c'est déjà une façon d'y être, une manière sensible et presque intellectuelle d'habiter la montagne. On la pense, on l'admire, on essaie d'y entrer, malgré ce sentiment premier d'inaccessibilité qui s'impose. Entre la montagne et nous, il y a deux mondes. Celui que nous façonnons et celui qui nous absorbe. L'un s'ordonne à notre mesure, l'autre nous désarme. Et pourtant, pour un alpiniste, il n'existe bientôt plus de frontières entre regarder et gravir. Son amour de la montagne devient tactile, presque charnel. L'alpiniste veut s'écorcher les mains, sentir la rugosité du granit, se hisser. Et dans ce contact direct, il mesure l'évidence de son aimantation.
Et il y a aussi toutes les histoires que la montagne contient et qui attirent des alpinistes de tous horizons.
Exactement, Kevin, la montagne est un croisement de vie et de récits, de mythes et d'anecdotes, de sensations et d'expériences. Pour beaucoup, les Drus incarnent un rêve, une épreuve initiatique, un sommet habité par la mémoire des plus grands. Traverser un paysage d'altitude, c'est toujours le comprendre, au-delà de son apparence immédiate. Car à chaque nom prononcé, à chaque sommet contemplé, s'attachent des souvenirs reliés entre eux, comme les cimes le sont par les vallées glaciaires qui les unissent.
Donc ce n'est pas la montagne seule qui aimante, mais la communauté tout entière qu'elle rassemble.
Eh bien oui, les montagnes qui nous aimantent réussissent un tissage. Elles relient sur un même plan la mémoire, la projection et le vécu. Dans son livre, qu'il a pourtant intitulé « Solitude », Benjamin Védrine reconnaît combien il doit à Léo Billon. Il rend hommage aussi à ce qui circule entre ces artistes des cimes, des gestes, des savoirs, des confidences, des traces laissées dans la roche. Ce qu'on a vu ensemble nous relie, nous tient, nous rassemble. Les montagnes sont des citadelles au cœur caché, et si l'on tend bien l'oreille, on y perçoit des souffles à l'unisson.
Merci Virginie Troussier. Je signale que Benjamin Védrine était l'invité de France Inter mercredi. Son entretien est à réécouter, si vous le souhaitez, sur l'application de Radio France. C'est une chanson maintenant, le dernier épisode de notre semaine spéciale Charles Aznavour. Aujourd'hui, Frédéric Pommier est avec l'acteur et humoriste Gilles Alma. Il avait choisi d'évoquer un titre sorti en 1965, le mythique La Bohème, chanson qui le ramène au jour de la naissance de son premier enfant.
C'est très improbable cette histoire, c'est-à-dire que j'ai eu mon premier fils en 2008, qui s'appelle Sacha, que j'embrasse plus que tout, et je tournais à l'autre bout de la France et j'ai loupé sa naissance d'une heure et demie, je suis arrivé une heure et demie en retard. Donc je suis arrivé très essoufflé, je suis arrivé le cœur un peu lourd, parce que bon bah voilà, on loupe la naissance de son premier garçon. L'infirmière m'a remis cette petite chose dans les bras, je me suis retrouvé seul avec lui dans une chambre. Et on dit que les bébés ne voient rien à la naissance, ils ne voient rien. Et pourtant, il y a un regard. Il y a un regard. Et je me souviendrai toute ma vie de ce regard. Voilà. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que je chante une comptine. Et la seule comptine qui est venue, c'est La Bohème de Charles Aznavour. Pourquoi, comment, aucune idée. Mais je lui ai fredonné La Bohème à mon petit Sacha. Voilà. C'est la première interaction qu'on a eue tous les deux avec ce regard.
Et vous écoutez ?
J'ai la nette impression, oui.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions.
Est-ce qu'en fredonnant cette chanson-là, vous avez eu l'impression de lui parler de vous, de vos débuts, de votre métier, de ce que vous étiez, de ce que vous aviez envie d'être?
Je pense que c'est une énergie, c'est une vibration, c'est des émotions. Peut-être que je lui disais déjà je t'aime à travers cette musique, très certainement d'ailleurs. Et je lui ai rappelé récemment, j'ai dit tiens, je t'ai chanté cette chanson. Voilà, il me dit ah bon, pourquoi?
Vous vous avez connu La Bohème?
Alors celle de Charles Aznavour, bien entendu non, je suis de 79. Mais moi j'étais 8 ans poissonnier avant d'être comédien, donc j'étais sur les marchés en région parisienne, donc est-ce que c'est une galère, je sais pas, c'est l'apprentissage de la vie. Mais c'est une bohème aussi quelque part, parce que quand je vais faire mon marché, je trouve ça formidable, je retrouve les commerçants, l'ambiance et quelque part un peu ma jeunesse.
La bohème, ça voulait dire.
Aznavour n'est pas un chanteur qui accompagne d'autres moments importants de votre vie.
Non, 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 je pense que je suis un peu jeune pour ça. Mon premier bisou, c'était pas Aznavour, quoi. Mon premier câlin non plus. Moi, je crois que d'ailleurs, il n'y avait pas de musique. Enfin, bon, bref, peu importe. Bon, la naissance de son premier enfant, je pense que ça reste la plus belle chose qui me soit arrivée, même si je suis arrivé en retard.
Vous en êtes remis d'être arrivé en retard?
Oui, oui, je m'en suis remis, mais j'ai essayé tant que possible d'être un bon père, et j'essaye encore. Il a que 13 ans.
Et la maman de Sacha ne vous en a pas voulu d'être arrivée en retard?
Bah non, 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 non. Bon, on a divorcé quand même, mais c'était pas ça. C'était pas la raison principale.
La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Voilà, fin de cette semaine donc avec le grand Charles. La semaine prochaine, c'est une chanson. Frédéric Pommier vous a préparé une sélection spéciale Alain Souchon, la bohème qui inspire encore 60 ans après, vous l'entendez, même Bad Bunny. Pour dire merci à toute l'équipe qui a préparé ce 13-14 de cette semaine de Noël, nos attachés de production Camille Poujalagui et Benjamin Ducy, Cécilia Arbona à la rédaction en chef de l'émission, pour la rédaction en chef des journaux Charline Legris et Sébastien Sabiron, assisté de Swat Bellani, Stéphane Rousset et Fabien Etchecopard. Et puis à la technique, Corentin Rouchy et Thomas Allard, Florian Dorémini et Élise Christophe également.